Il est mort, Jim, lu par l'auteur, épisode 98, chapitre 15. J'ai ensuite trouvé une Lisangela habillée et pimpante. La belle se levait désormais aux aurores. Nous avons plaisanté. Nous étions heureux. Nous sommes partis nous promener dans la ville de Tumbes. C'était plutôt un village, mais la lumière qui inondait la place d'armes, son côté provincial désuet, nous ont plu. Je me souviens de petits perroquets qui jacassaient d'arbres en arbres. Je me souviens de la robe que Lisangela portait. Elle lui allait à merveille. Le bleu faisait un bel ensemble avec ses cheveux blonds. Je me souviens de lui avoir demandé si elle en avait choisi la couleur pour l'accorder avec la façade de l'église sur la place. Elle était bleue et blanche, et nous avons répondu à son appel de fraîcheur après quelques minutes sur un banc. C'était l'église matrice San Nicolas de Tolentino, la cathédrale de la ville. Augustine, restaurée à la fin du XXe siècle, elle n'avait pas le brio des églises d'Oro Preto, des villes coloniales du Pérou ou des styles gothiques et romans européens. J'ai quand même aimé y être. J'ai déjà dit que lorsque je voyais une église, j'y entrais. Elle m'attirait toujours. J'y admirais l'architecture, le calme, les siècles qui y reposaient. J'y aimais l'exception qu'elles étaient au milieu de l'agitation des hommes. Les villes changeaient et elles restaient les mêmes, affirmant bien haut leur permanence. Je suis resté de longues minutes devant la statue du Christ en croix, devant l'autel. J'avais lu à l'entrée que c'était une pièce maîtresse de la cathédrale. Effectivement, c'était une belle exécution, si réaliste que le corps sans vie semblait animé. En l'observant, j'ai pensé au narrateur des lettres du Christ. Il n'y avait qu'un rapport lointain entre cette représentation à laquelle nous étions si habitués et ce texte, qui parlait de façon si dénuée de symbolisme catholique. Sixième jour, leçon 15, mes pensées sont des images que j'ai faites. Lisangela m'interrogeait sur les progrès de la rédaction de mon livre. Elle ne voulait pas que je le lui montre cependant. Je le lirai lorsqu'il sera terminé, lorsque tu me diras qu'il est prêt. Je lui disais que son avis m'aurait aidé. Elle me disait que cela aurait gâché sa découverte, qui devait être totale. J'étais secrètement satisfait. Cela signifiait qu'elle pensait vivre jusque-là. Et ce jusque-là risquait d'être long. Mes pages avançaient au gré de mes lectures, de mon inspiration et des événements de mon existence. Elle dévorait ma vie, en quelque sorte, en recyclait plutôt les faits, qui me semblaient emprunter ce chemin, disons, initiatique, duquel j'ai plusieurs fois parlé. Et ainsi, je ne savais pas combien de pages je rédigerais, ni où elles me conduiraient. Il y avait aussi la question de la finitude. Tant que j'écrivais, ne prolongeais-je pas ma vie? Et que pourrais-je bien écrire après un tel sujet? Septième jour, leçon 16. Je n'ai pas de pensée neutre. Nous n'avions pas fêté Noël sans regret. Le soir de Nouvel An, j'ai sorti du petit réfrigérateur une bouteille de Pommery qui m'avait accompagné de France avec deux de ses sœurs et que j'avais rangée à notre arrivée. Je n'avais rien dit à Lisangela. Je savais que la surprise du champagne serait bonne. Il n'a pas son pareil pour provoquer la joie sans les effets nocifs des lendemains des autres alcools. Nous avons mangé sur la terrasse, de la truite fumée, des coquilles Saint-Jacques, que nous nous sommes fait livrer du restaurant de l'hôtel. Nous avons terminé le festin par un Saint-Marcellin que Lisangela avait amené au péril de sa confiscation à l'aéroport de Lima. Elle n'avait pas été victime du feu rouge qui déterminait si on était contrôlé ou non. J'ai dû constater, lorsqu'elle l'a sorti du réfrigérateur, que la surprise du champagne n'en était pas une.